jusqu'aux portes de Rouen.
Sur le DAB+.
Solo te pido que tú cambies la carita y que no llores, que se corre el mar.
président ukrainien Volodymyr Zelensky était à Chypre hier, aux côtés des dirigeants européens réunis en sommet. Ils saluent tous un grand jour après le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros accordé à l'Ukraine par l'UE. On y revient dès le début de ce journal. On parle aussi du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, prolongé de 3 semaines, annonce Donald Trump, qui lui ordonne désormais à la marine américaine de tirer et anéantir tout bateau qui poserait des mines dans le détroit d'Ormuz. Dans ce journal également, le témoignage d'un des migrants latino-américains expulsés des États-Unis et qui se trouve depuis une semaine maintenant en République démocratique du Congo. Et puis le revers des actionnaires de BP à la nouvelle direction du géant pétrolier britannique. On sera à Londres dans quelques minutes. Un premier versement prévu d'ici la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. L'Ukraine doit attendre encore un petit peu, mais elle sait désormais avec certitude qu'elle aura ce prêt de 90 milliards d'euros que lui accorde l'Union européenne. Il n'aura pas été facile à obtenir, c'est vrai, face au blocage de la Hongrie qui exigeait d'abord la reprise des livraisons de pétrole russe par l'oléoduc Droujba, endommagé par des frappes. Eh bien ça y est, le pétrole y circule à nouveau, le blocage de Budapest est levé et le prêt est enfin validé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'en est félicité hier à Chypre où il participait à un sommet européen lors duquel un nouveau paquet de sanctions, le 20e, a aussi été décrété contre Moscou et sa flotte fantôme, ses navires utilisés par la Russie pour exporter son pétrole malgré les sanctions occidentales. Noé Pignède.
Après 4 mois de blocage, le nouveau plan d'aide à l'Ukraine de l'Union européenne est enfin validé pour Volodymyr Zelensky. C'est une victoire et un grand soulagement.
C'est une décision forte et fondamentale, prise par tous les leaders européens à l'unanimité et nous en sommes très reconnaissants. Nous allons travailler à ce que ces fonds soient envoyés le plus vite possible. Ça va renforcer notre armée, sauver des vies et ensemble nous continuerons à œuvrer pour pousser la Russie à la diplomatie et mettre fin à la guerre.
90 milliards de prêts dont un tiers sera consacré au soutien économique de l'Ukraine et 2 tiers à son industrie de défense. Le remboursement n'interviendra qu'une fois que Moscou aura indemnisé Kiev pour les dommages causés par sa guerre d'agression, écrit le Conseil européen. D'ici là, l'UE se réserve le droit de recourir aux 210 milliards d'avoirs russes gelés pour rembourser, même si cette option, rejetée par la Belgique, est pour l'instant écartée. Volodymyr Zelensky a aussi profité de ce sommet pour réaffirmer que son pays mérite une pleine adhésion à l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, lui a promis l'ouverture d'un premier cycle de négociations.
Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, on l'assure, la Russie sera bien invitée au sommet du G20, prévu en décembre prochain en Floride. Vladimir Poutine y participera-t-il directement? Aucune décision n'a été prise, dit-on au Kremlin, qui ajoute quand même que la Russie a, je cite, participé à chaque sommet au niveau approprié. Lors du précédent sommet du G20 en novembre dernier à Johannesburg, le président russe n'était pas venu, lui qui est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre. C'est aussi le cas de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui pourrait rencontrer son homologue libanais Joseph Aoun dans les semaines à venir. C'est en tout cas l'optimisme affiché par Donald Trump après la réunion d'hier à Washington, une deuxième session de pourparlers entre les ambassadeurs israéliens et libanais. Et ils se sont accordés pour prolonger de 3 semaines le cessez-le-feu en cours. Là encore, c'est Donald Trump qui l'annonce, évoquant une réunion qui s'est très bien déroulée. Le président américain va plus loin. Pour lui, il y a une très bonne chance de parvenir à un accord de paix cette année. Il ajoute que les États-Unis vont collaborer avec le Liban pour, je cite toujours, l'aider à se protéger contre le Hezbollah. En attendant, s'il est prolongé, le cessez-le-feu est aussi très fragile. Le mouvement chiite pro-iranien et l'armée israélienne se sont accusés à plusieurs reprises de l'avoir violé. Autre trêve prolongée mais fragile, celle en cours entre d'un côté les États-Unis et Israël et de l'autre l'Iran. Cette nuit, pour la première fois depuis son entrée en vigueur le 8 avril dernier, le système de défense anti-aérienne a été activé à Téhéran où des explosions ont été entendues. Une source sécuritaire a assuré à nos confrères de l'AFP que l'armée de l'État hébreu n'était pas en train d'attaquer l'Iran, mais elle est visiblement prête à le faire. Les cibles ont été désignées. Nous attendons le feu vert des États-Unis pour ramener la République islamique à l'âge de pierre, a prévenu le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Donald Trump aussi a le doigt sur la gâchette. Il dit avoir ordonné à la marine américaine de tirer et anéantir tout bateau qui poserait des mines dans le détroit d'Ormuz, toujours paralysé par l'Iran, qui n'a ni l'intention de le débloquer ni de discuter tant que les États-Unis continueront de leur côté à bloquer les ports du pays. Alors en attendant, le trafic maritime est toujours très perturbé, notamment à l'Isfousar avec cette flotte iranienne surnommée flotte moustique.
L'idée est assez simple. Au lieu de rivaliser avec les grandes marines, avec de gros navires coûteux, l'Iran mise au contraire sur une multitude de petites embarcations rapides, une menace diffuse et discrète pour contourner la puissance navale américaine, explique Romain Mielkarek. Il est chercheur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des questions de défense.
Ces tactiques de dessin, donc avec plein de petites vedettes légères et furtives, on a longtemps cru que leur logique principale était de pouvoir opérer dans une logique kamikaze en allant attaquer en masse des navires américains. Ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est plutôt leur utilisation pour attaquer donc les pétroliers ou les porte-containers qui sont présents dans le détroit, avec un armement assez léger et facile à transporter.
La grande force de ces navires, poursuit le chercheur, c'est qu'ils sont faciles à camoufler pour les Iraniens. Dissimulés le long des côtes, cachés dans des grottes, ils sont parfois même noyés dans la masse des petites embarcations de pêche, et leur rapidité jusqu'à 150 km/h leur permet aussi d'échapper aux radars.
On ne sait pas exactement combien de navires ça représente. Il y a régulièrement eu de la communication côté iranien pour mettre en scène ces bateaux. Ce qu'on sait, c'est que c'est des volumes conséquents, plusieurs centaines de petits navires. Le nombre exact, il est inconnu.
En tout cas, la menace qu'ils font planer suffit à réduire considérablement un trafic maritime déjà très contraint.
Précision d'Alice Froussard. Il est 5h06 à Kinshasa. Ça fait une semaine qu'ils sont dans la capitale congolaise. Un groupe de migrants expulsés des États-Unis est dirigé vers la RDC après la signature d'un accord avec Washington. Ils sont 15 au total, originaires d'Amérique du Sud, hébergés dans un complexe hôtelier près de la capitale congolaise. Le temps de faire un choix, rester en RDC ou rentrer dans leur pays d'origine, car c'est là toute la subtilité, dirons-nous, de cet accord. Les États-Unis n'avaient pas le droit de renvoyer directement ces personnes dans leur pays, mais pouvaient par contre les expulser vers un pays tiers avec ensuite la possibilité de les rediriger effectivement vers leur patrie d'origine. Alors parmi ces migrants, Hugo Palencia, il est colombien. Quand il était aux États-Unis, il avait obtenu de la justice le droit de ne pas être expulsé, mais il a quand même été mis dans un avion pour la République démocratique du Congo. Il a maintenant entamé des démarches pour rentrer en Colombie et il dénonce ses expulsions vers des pays tiers.
En politique, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je sais ce qu'on nous a fait à nous. Beaucoup de ceux qui sont ici ont obtenu une protection grâce à un juge, et je ne sais pas pourquoi les États-Unis concluent des accords avec des pays africains. Avec tout le respect que je dois à ce pays, c'est un pays moins développé que les États-Unis ou que notre propre pays. Ici, la pauvreté, vraiment, avec tout le respect, je vais le dire parce qu'aujourd'hui je me trouve dans ce pays, la pauvreté extrême, l'insécurité sont plus dures que dans mon propre pays. Je viens de Colombie, un pays où en vérité c'est déjà un peu difficile. Et je ne comprends pas pourquoi ces accords existent et pourquoi l'ICE prend des décisions avec plus de poids qu'un juge de l'immigration. C'est-à-dire que les agents de l'ICE ont plus de soutien du gouvernement qu'un juge de l'immigration lui-même.
Los agentes de l'ICE que un propio juez de migración.
Des propos recueillis par Paulina Zidi, qui a pu parler avec d'autres migrants latino-américains à Kinshasa. Elle nous en parlera dans le journal de 6h en temps universel. Moi, je vous parlais tout à l'heure de Vladimir Poutine et de sa potentielle présence au prochain sommet du G20. On n'y est pas, hein, ce sera en décembre. En tout cas, hier, le président russe participait dans son pays à une réunion consacrée au développement de l'Arctique et il en a profité pour parler du sujet qui préoccupe beaucoup de ses concitoyens en ce moment, les blocages d'Internet, de plus en plus dénoncés. Mais Poutine assume au nom de la sécurité. Correspondance à Moscou d'Anissa El-Jabri.
Même la presse légitimiste s'est fait régulièrement l'écho du mécontentement, voire de la colère sur les blocages d'Internet, que cela vienne des élites ou des milieux populaires. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé, lisait-on par exemple encore il y a 2 jours dans le Moskovski Komsomolets, avançant, je cite, « L'Union soviétique fut jadis le premier pays à envoyer un satellite artificielle et un homme dans l'espace, mais elle s'est ensuite repliée sur elle-même, accusant un retard considérable en matière de technologie informatique et dans bien d'autres domaines. Mais pour Vladimir Poutine, il faut surtout faire la pédagogie de cette décision.
La priorité absolue restera toujours d'assurer la sécurité de la population, de nos enfants, de nos proches, de chaque citoyen russe. Lors d'opérations de prévention de la criminalité et des attentats terroristes, une diffusion précoce d'informations au public peut nuire au bon déroulement. déroulement des opérations. En effet, les criminels sont également informés de tout et si certaines informations sont divulguées, ils adapteront leur comportement et leur plan. Par ailleurs, premièrement, il est essentiel que la population soit informée des résultats de l'opération. Et deuxièmement, une étroite coordination entre les forces de l'ordre et les instances gouvernementales civiles est indispensable pour trouver les solutions optimales.
Pas un mot sur le blocage de la messagerie Telegram, très populaire en Russie. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Le ton monte au Royaume-Uni entre BP et ses actionnaires. Ces derniers ont infligé hier un désaveu cinglant à la nouvelle direction du géant pétrolier britannique. Lors d'une assemblée générale annuelle particulièrement tendue, ils ont notamment rejeté largement deux résolutions, vues comme un recul de la transparence sur la stratégie climatique. À Londres, les explications de Sarah Menaï.
C'est un vote qui a tout l'air d'un rappel à l'ordre et une grogne qui a commencé il y a plusieurs semaines déjà, après le refus de la direction de BP de soumettre au vote une résolution demandant au groupe de présenter une stratégie dans des scénarios de baisse de la demande d'hydrocarbures. L'épisode avait fait monter d'un cran la défiance entre l'entreprise et ses actionnaires. Jeudi, ce bras de fer s'est intensifié. Les actionnaires ont notamment rejeté une proposition visant à révoquer deux résolutions. Résolution qui oblige aujourd'hui l'entreprise à publier certaines informations relatives au climat. Alors cette fronde tombe mal pour BP. Après une chute vertigineuse de ses bénéfices en 2025, l'entreprise est en pleine restructuration interne. Sa nouvelle patronne, l'américaine Meg O'Neill, arrivée début avril, doit désormais naviguer entre résultats en berne, crise de confiance et urgence écologique. Sarah Menei, Londres. RFI.
Et puis la chanteuse Théodora, en force hier soir aux flammes, la cérémonie française de récompense du rap et des cultures populaires. 5 trophées au total pour la chanteuse. Elle a notamment été sacrée meilleure artiste féminine de l'année. Côté masculin, c'est Gims qui a été récompensé. Et puis le titre du meilleur album rap a été remis à Werenoi, à un titre posthume puisqu'il est mort il y a presque un an. On va revenir plus longuement sur cette cérémonie des flammes dans le journal de 8h, heure de Paris.
Gaëtan Plenet.
L'actualité africaine, elle, revient dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on est en Corée du Sud, où pour échapper aux 2 années de service militaire obligatoire, certains préfèrent carrément la prison. On est à Marrakech aussi, au Maroc, où le festival de littérature africaine a commencé hier. On sera avec celui qui en est à l'origine, l'écrivain et peintre Maï Bindin. Il sera notre invité culture ce matin. Et puis, comment réduire le risque d'être victime d'un accident vasculaire cérébral ? Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on en parlait dans le journal. 3 semaines de plus pour la trêve entre Israël et le Liban. C'est le président américain qui l'a annoncé, alors que son pays accueillait hier une 2e session de pourparlers entre les ambassadeurs des deux pays à Washington. Trêve prolongée donc, mais toujours très fragile. Les deux camps s'accusent mutuellement de violations. Hier, une frappe israélienne dans le sud du Liban aurait fait 3 morts, selon le ministère libanais de la Santé. Des bombardements qui ont régulièrement pris pour cible le secteur de la santé dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment, mais aussi donc dans le sud du pays, à Nabatieh, par exemple, une grande ville commerçante devenue ville fantôme. Reportage sur place de notre correspondante Sophie Guignon.
À Nabatieh, les secouristes sont considérés comme des héros. Uniforme bleu et rouge, gilet pare-balles, Mohamed Hayat ne profite pas vraiment de cette trêve de papier.
Il y a une trêve, mais même les drones sont toujours là. Hier, il y avait beaucoup d'avions de guerre dans le ciel. Et la veille aussi, c'est clair qu'ils violent déjà la trêve. Nous, en tant qu'équipe de secours, nous restons présents et prêts à servir les gens en cas d'accident.
Responsable des opérations des ambulanciers de Nabatieh, Mohamed a perdu plusieurs collègues.
Malheureusement, nous avons payé un lourd tribut, un tribut qui ne peut pas être compensé, la perte de nos jeunes, de nos vies.
Il dénonce le ciblage des secouristes par Israël.
La première fois, 2 jeunes, Joud et Ali, étaient sur une moto quand ils ont été ciblés. Puis 2 jours avant la trêve, notre martyr Mahdi a été directement ciblé alors qu'il était dans une ambulance en train d'accomplir son devoir pour aider nos collègues des autres associations de secours qui avaient déjà été frappés par une première et une 2e frappe. Nous sommes allés leur porter secours et soutien pour évacuer les blessés. Notre ambulance a elle aussi été ciblée par une 3e frappe.
Ces trois frappes successives ont fait 4 morts, qui viennent s'ajouter aux plus de 100 secouristes tués par Israël depuis le début de la guerre. À l'hôpital du Secours populaire de Nabatillé, les chambres des patients hébergent désormais des soignants et les pompiers.
Bonjour, comment ça va ? On héberge les gens des organisations qui aident comme la nôtre. Sinon, on ne pourrait pas travailler.
Mona Abouzait dirige l'hôpital.
Regardez, vous voyez cet immeuble ? Maintenant, il est...
Caché dans ton jardin secret, j'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as regagné ta jungle sacrée, les vieux songes hurlent, leur centre dévore. Dans ton jardin secret, terre impénétrable. Jardin secret, terrain vague, à l'âme. La serre invisible s'est refermée. Je reste interdit, je ne peux pas rejoindre. Impossible de s'y insinuer. J'attends aux aguets à l'entrée de la jungle. Jardin secret, terrain impénétrable. Jardin secret, terrain vague. Tu t'es caché dans ton jardin secret. J'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as rejoint ta jungle sacrée. Les vieux songes hurlent, leur centre dévore. Dans ton jardin secret. Jardin secret.
ma peine, rappe ma joie, rappe ma haine. Si t'aimes, rabat-toi, foutez-nous la paix.
Ce sont des ordres ambiants, et puis en courant et repartir en fauteuil roulant. Ce sont l'amour avec un test, on laisse au bas, tous ces pour nous faire la leçon. Ce sont carnage ambulant, c'est ce qu'on peut tout tirer pour elles sur les ambulances. Ce sont traverser le désert, le dernier couloir qui manque à tous les suicidaires. Ce sont des cris de manifestants, entre en zigzag, on épice et des cailloux de sang. Ce sont des beuglés dans la rue et massacrer les purs à la pompe de sécu.
Mettre les gants, éteindre l'écran, faire ses bagages pour quitter les bancs, éliminer les grands, tester les ordres, élaborer des plans, détester les potes, des gommes et des bérets, payer des taxes, suffirer des rues par des flingues et des casques, pomper les masques, charger les lance-pierres, juger l'état et enfermer les gangsters. Ah, remonter la pente, soigner le stress, fumer des plantes, manger des trempes et des crampes, libérer la détente et viser les tempes, allumer la poudre, pousser des cris, cracher la rage, les goûts, le mépris, allumer la poudre, pousser des cris, cracher la rage, le dégoût, le mépris.
Ce sont des ordres ambiants, c'est finir en courant et repartir en fauteuil roulant. Ce sont l'amour avec un test, on laisse, on bat, tous ces pions nous faire la leçon. Ce sont carnage ambulant, c'est ce qu'on peut tout tirer pour elles sur les ambulances. Ce sont traverser le désert, le dernier courage qui manque à tous les suicidaires. Ce sont des cris de manifestants, entre en zigzag, on épice et des cailloux de sang. Ce sont ces beuglés dans la rue et massacrer des pions dans la pompe de sécu.
And you'll finally